France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Dans les premiers temps de l'invasion russe, tout ce qui comptait, c'était de s'engager, d'aller sur le front. Je ne pensais même pas que je pourrais être utile en écrivant quelque chose.
Souvent, quand je peins dans la rue, des militaires passent et me remercient pour ce que je fais. Grâce à tout ça, j'ai compris que je peux être utile à travers mon art.
La poésie sur le front, c'est avant tout un moyen de repousser la douleur permanente que l'on ressent ici. C'est une forme de méditation sur tout ce que la guerre a changé dans ma vie et une manière d'essayer de donner un sens à tout ça.
C'était à l'ouverture de la Biennale de Venise en avril dernier. Dans une vidéo, Volodymyr Zelensky appelait le monde de l'art à soutenir le combat du peuple ukrainien. Aucun mot, disait-il, ne peut exprimer les sentiments d'une petite fille de Mariupol qui écrit une lettre à sa mère assassinée par les bombes russes. Aucun mot ne peut exprimer ce qu'ont ressenti les soldats ukrainiens quand ils ont découvert les cadavres de centaines de leurs concitoyens à Boutcha. Seul l'art peut transmettre ces sentiments. Lui seul peut raconter au monde des choses qui ne peuvent être partagées autrement. Sans attendre l'appel de leur président, des artistes ukrainiens sont rapidement devenus des ambassadeurs de leur pays, entamant des tournées internationales pour que l'invasion de l'Ukraine ne soit pas trop vite oubliée et pour défendre et faire mieux connaître une culture et une langue que Moscou voudrait effacer. D'autres artistes n'ont pas voulu partir. Malgré les bombardements et les coupures d'énergie, les Ukrainiens peuvent donc toujours se rendre au cinéma, au théâtre, à des expositions, sans oublier les concerts et autres spectacles qui permettent aussi de récolter des fonds pour soutenir les combattants. Des combattants parmi lesquels on retrouve là encore des artistes. Ils défendent leur pays au sens propre, les armes à la main, prêts à donner leur vie, comme Alexandre Chapoval, danseur étoile tombé sous les obus de mortiers en septembre dernier. Artiste ukrainien de la scène au front, c'est un reportage signé Camille Magnard. Donc en reportage, nous accueillons aujourd'hui Irena Karpa, écrivaine, scénariste, chanteuse. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez participé à deux révolutions en Ukraine avant de vous installer à Paris. Vous avez été pendant 3 ans chargée des affaires culturelles à l'ambassade d'Ukraine en France. Vous entendrez sûrement des personnes que vous connaissez bien dans le reportage de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes donc allée à la rencontre de ceux qui mènent la guerre sur le front culturel.
Oui, avec Laurent Macchietti qui assure la prise de son, on a conçu ce grand reportage comme une traversée de l'Ukraine d'ouest en est, du plus loin des combats, la ville de Lviv, où l'on va démarrer dans un instant, jusqu'au plus près d'une des lignes de front dans le nord du Donbass. Et à chaque fois, on va rencontrer des artistes qui ont une histoire particulière à nous raconter sur la manière dont l'irruption de la guerre dans leur quotidien il y a un an a changé leur vie et leur création, mais aussi sur la manière dont ils s'engagent chacun à sa manière dans cette résistance culturelle qui est aussi massive et impressionnante que l'est la résistance du peuple ukrainien dans son ensemble depuis un an.
On vous suit donc pour commencer à la gare de Lviv en compagnie de l'écrivain et poète Ostap Slivinsky.
Tamil? Hi.
Hello.
Stop.
Yo, stop. Good. Let's go inside. Nice. It will be less cold.
Yeah, let's go.
On va aller se mettre à l'intérieur parce que c'est vrai qu'il fait encore froid ici au début du mois de février à Lviv. La neige tombe et nous on va se mettre un petit peu à l'abri dans la gare. L'annonce au micro nous informe que le train pour Kharkiv va bientôt partir.
Ostap, pourquoi c'est important pour vous cet endroit de la gare de Lviv? Qu'est-ce que ça représente pour la ville de Lviv dans la guerre, cette gare, et pour vous dans votre travail?
Je dirais que c'est ici que la guerre a commencé pour moi. C'est l'endroit où je devais être dans les premiers jours de l'invasion russe. Les premières semaines, c'était un flot ininterrompu de réfugiés qui déferlaient ici. Plus d'un million de personnes sont passées par la gare de Lviv, rien que les premiers mois. Des gens complètement perdus, qui ne savaient pas ce qui les attendait. Ils avaient besoin de tout, qu'on les nourrisse, qu'on les oriente dans leur exil, et surtout, qu'on écoute leur histoire.
Et vous, Ostap, vous êtes un écrivain, un poète.
comment vous avez pu trouver votre place, votre première réaction au moment de l'irruption justement de la guerre, dans le sens de l'invasion russe de forte intensité comparée à 2014, vraiment le 24 février. Quelle place vous avez voulu prendre, vous, dans tout ça ?
Dans les premiers temps de l'invasion russe, tout ce qui comptait, c'était de s'engager, d'aller sur le front, combattre l'ennemi, l'arme à la main. Rien d'autre n'avait de sens. Et les autres activités, culturelles par exemple, paraissaient dérisoires. Je ne pensais même pas que je pourrais être utile en écrivant quelque chose. C'est plus tard que j'ai compris que ce qui compte, c'est de s'engager dans ce que l'on sait faire le mieux, en le faisant encore mieux que d'habitude. Donc, les deux premières semaines, j'étais ici, à la gare, pour aider les réfugiés. Il y avait besoin de toujours plus de volontaires. Ensuite, je suis allé aider dans des abris où les réfugiés étaient accueillis. Et c'est là que j'ai compris que ces gens avaient vraiment besoin de personnes comme moi, qui pouvaient écouter leur histoire, les écrire et les partager ensuite en les publiant.
Et aujourd'hui, un an plus tard, est-ce que la guerre a changé votre façon d'écrire de la poésie ou d'autres genres littéraires ?
Oui, la guerre a tout changé. Pas seulement ma façon d'écrire, mais de penser le monde autour de moi. Au début de l'invasion, je pensais que toute tentative de fiction serait vouée à l'échec incongru. Pourquoi aller imaginer une autre réalité quand nous vivons dans une réalité aussi terrifiante ? Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à trouver un moyen de travailler ce matériau de la réalité de la guerre. Ça m'a permis de me réconcilier avec elle. Et à présent, je recommence à me dire que je peux à nouveau m'aventurer dans la fiction, que je suis un écrivain et pas seulement un documentaliste du présent.
Pour vous, c'est aussi une guerre contre la culture ukrainienne. Il y a vraiment une dimension culturelle aussi à cette invasion.
En fait, pour moi, l'aspect principal de cette guerre, c'est que les Russes essayent avant toute chose de détruire la voie de l'autodétermination ukrainienne, notre aspiration à penser par nous-mêmes notre avenir. C'est pourquoi les missiles russes visent sciemment des musées, des bibliothèques, comme à Kharkiv, le musée de notre grand philosophe ukrainien Skovoroda. À travers tout le pays, des lieux culturels ont été visés, alors qu'ils ne représentaient aucun enjeu militaire ou stratégique. De même, dans les zones occupées par les Russes, on voit comment ils font la guerre à la langue ukrainienne, en traduisant par exemple toutes les inscriptions officielles en langue russe.
Finalement, vous, en restant à votre place d'écrivain, de poète, vous résistez à votre manière. Vous avez réglé la question de la place que vous pouvez y avoir dans cette guerre et possiblement de la culpabilité qu'il peut y avoir à être loin du front et à ne pas porter d'armes, mais à porter un stylo.
Non, vraiment pas. Je crois qu'il est impossible de trouver sa place dans la guerre. Et impossible aussi de ne pas avoir de remords sur tout ce qu'on ne fait pas. Les seuls qui sont en paix avec tout ça, ce sont ceux qui sont morts au front.
Nous laissons derrière nous Ostap Slivinsky et la gare de Lviv pour rejoindre Kiev, la capitale. Quand je préparais ce reportage, la critique de théâtre ukrainienne Irina Tchoujinova m'avait dit deux choses. D'abord qu'à Kiev, les salles de théâtre sont pleines tous les soirs. Et aussi qu'en ce moment, il y a au moins trois pièces qui se jouent et qui mettent en scène des représentations de Vladimir Poutine. L'une d'elles, c'est Caligula, la pièce d'Albert Camus, écrite juste avant la Seconde Guerre mondiale, et qui évoque, entre autres, l'avènement d'Hitler dans l'Allemagne nazie. 80 ans plus tard, les Ukrainiens y voient, paraît-il, un parallèle évident avec leur agresseur russe. Le soir où nous arrivons à Kiev, on joue justement Caligula au Théâtre National Ivan Franko, et Irina Tchoujinova avait raison, la salle est pleine.
Кожен здобуває свою чистоту, як може. Коли я не вбиваю, то почуваюся самотнім. Мені добре тільки з рахметрою.
On m'avait parlé de la pièce, moi, parce que on me l'avait présentée comme une pièce qui parlait de la Russie de Vladimir Poutine. Et finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais voir si, ce qu'ils ont à dire là-dessus.
Je m'appelle Olana Khokhlatkina. Je joue le personnage qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà ?
Helikon.
Ah oui, Helikon. C'est une esclave qui soutient et encourage le tyran Caligula dans sa quête de pouvoir absolu et destructeur. Bien sûr, cette pièce est un avertissement aux générations futures sur les dangers de confier tous les pouvoirs à un dictateur. Mais pour moi, ça a surtout été une réflexion profonde sur la psychologie de ces esclaves, sur tous ceux qui se mettent au service du tyran et, au final, ne méritent rien d'autre que la dictature dans laquelle ils sont broyés. Mais vous savez, malgré tout, ce rôle ne m'a pas donné toutes les réponses aux questions que je me pose aujourd'hui encore sur les ressorts de cette mentalité, de l'esclavage appliqué à la société russe actuelle sous Vladimir Poutine. Je n'arrive pas à comprendre comment un peuple entier peut soutenir ainsi son tyran jusqu'à la mort. J'aimerais comprendre, mais au fond de moi, je n'y arrive toujours pas.
Les théâtres sont pleins, les théâtres fonctionnent. Est-ce que les gens viennent chercher des réponses, comme vous venez de le dire ? Est-ce que c'est à ça que sert le théâtre dans un contexte aussi tragique que celui que traverse l'Ukraine ?
Oui, la plupart de nos spectateurs viennent ici trouver des réponses aux questions que fait surgir la guerre sur tout ce qui nous arrive. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui est revenu au théâtre quand nous avons rouvert l'été dernier, parce qu'ils sont attachés à nous, qu'ils nous suivent depuis longtemps et que c'était important pour eux symboliquement que cette partie-là de leur vie reprenne. Le théâtre, c'est un lien émotionnel entre eux et nous, mais aussi entre ce qu'on joue ici pendant une heure ou deux chaque soir et la réalité de leur quotidien bouleversé par la guerre. Oui, le théâtre peut apporter des réponses, mais surtout une forme d'apaisement de l'âme qui est précieux par les temps qui courent.
Roman Yasinovsky. Je m'appelle Roman Yasinovsky, je suis comédien aussi. Je voudrais pousser un peu plus l'analogie pour dire que dans cette guerre, d'un côté, il y a nous, le peuple ukrainien, qui réfléchit, qui se questionne et qui revendique le droit de trouver lui-même les réponses à ses questions dans la comparaison avec d'autres périodes de l'histoire, d'autres contextes culturels, etc. Et de l'autre côté, il y a le peuple agresseur, les Russes, pour qui tout est très simple et qui n'ont pas à se poser de questions. Tout est clair pour eux, leur télévision leur dit ce qu'ils doivent penser, ils l'acceptent sans broncher. Si leur tyran leur dit qu'il faut aller tuer le peuple d'à côté, ils y vont, comme s'ils avaient accepté l'idée qu'il ne faut surtout pas penser par soi-même. Pour nous, c'est tout le contraire. Nous devons toujours penser ce qui nous arrive, peser le pour et le contre, le vrai et le faux, et nous faire notre propre avis avant d'agir. Pour moi, c'est ça qui est au cœur de cette guerre.
Est-ce qu'on peut encore jouer des pièces de théâtre russe aujourd'hui dans un théâtre ukrainien ?
Je m'appelle Ksenia Bacha, je suis actrice. Je ne sais pas si dans le futur on pourra à nouveau imaginer jouer les classiques du théâtre en langue russe ici en Ukraine, mais pour le moment ça semble impossible. Pour la plupart d'entre nous, la langue et la culture russe sont désormais trop associées à l'occupation et à la barbarie avec laquelle se comportent les Russes depuis un an sur nos terres.
Pour moi, c'est très clair. Le soutien que nous pourrions apporter à la culture russe, ce serait du soutien en moins apporté à la culture ukrainienne. Et dans le contexte de l'invasion, c'est inacceptable. Je pense qu'il faut d'abord nous mobiliser pour notre résistance et en attendant, rejeter tout ce qui nous lie à la Russie. Après la victoire, on verra.
Це якась відьма, я так розумію.
À Kiev, il n'y a pas que dans les théâtres que la vie culturelle a repris.
il n'y a quasiment pas un soir sans qu'un bar ou une salle de concert organise une soirée de musique, de poésie, ou les deux, comme ce soir-là, au Barman Diktat, un bar très connu dans un sous-sol de la Grande Avenue Kréchatique. Le but, c'est de récolter des dons pour l'armée. Et l'organisatrice, c'est Sonia Sotnik, journaliste de la radio musicale Radio Rox. Comme le nom l'indique, Sonia est depuis plus de 30 ans l'une des meilleures connaisseuses de la scène rock ukrainienne.
Ça fait 8 ans qu'on a lancé ces soirées, qu'on a appelées soirées au chapeau. Quand la guerre a commencé, en Crimée, dans le Donbass en 2014, des réfugiés ont commencé à arriver à Kiev. Ils avaient besoin d'aide, alors on a organisé ici, dans ce bar, un centre d'aide humanitaire. De fil en aiguille, on a monté des spectacles pour les enfants de réfugiés, et puis ça s'est transformé en événement culturel caritatif. On mettait un chapeau dans la scène et on essayait de collecter un maximum de dons qu'on utilisait ensuite pour acheter des médicaments.
Là, par exemple, ce soir, il y a un concert, mais c'est une façon de récolter de l'argent. Pourquoi précisément ? Il y a un but précis à la collecte d'argent ?
En fait, depuis le 24 février 2022, on collecte des fonds pour trois choses. Pour soutenir les médecins et les secouristes de l'armée, pour financer l'achat de prothèses pour les soldats qui ont subi des amputations, et enfin pour financer aussi des traitements anti-cancer, car les cancers connaissent une recrudescence en ces temps de guerre. Nous faisons en général un concert par semaine, et ce soir, nous accueillons la poétesse Svitlana Povalyova, Eva, qui vient nous présenter son nouveau recueil de poèmes. Elle a perdu un de ses deux fils à la guerre, dans la région de Kharkiv. C'était un militant pro-démocratie très connu depuis 2014, et l'an dernier, il s'était engagé dans l'armée. Et puis, on aura aussi le groupe ukrainien, numéro 482, dont le chanteur est lui aussi engagé sur le front, en ce moment même. Il est là en permission.
Ça correspond à une réalité du monde de la culture ukrainien qui n'est pas si... éloigné que ça des combats, beaucoup d'artistes, de ce que j'ai pu comprendre, sont engagés vraiment sur le front, ou en tout cas soutiennent aussi à l'arrière l'effort de guerre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, vous qui connaissez énormément d'artistes par votre travail à la radio ?
Oui, c'est vrai. Beaucoup de musiciens de la scène rock ukrainienne en particulier se sont engagés dans l'armée. Avant 2022, ils allaient soutenir nos soldats en donnant des concerts près du front, mais maintenant ils sont devenus des soldats eux-mêmes. La transformation s'est clairement opérée le 24 février de l'an dernier. Ça a été un déclencheur où chacune ou chacun a compris qu'il ne suffisait plus de chanter des chansons sur l'amour de notre belle patrie, mais aussi d'aller défendre cette idée jusqu'au bout.
J'ai l'impression que ça correspond aussi avec quelque chose de plus ancien sur la scène musicale pop-rock principalement ukrainienne. Il y a eu la révolution orange, il y a eu la révolution de Maïdan. À chaque fois, les artistes étaient engagés pour soutenir ces causes-là, qui sont finalement des causes de l'affirmation nationale et de l'indépendance ukrainienne. Du coup, c'est la continuité de ça ?
C'est vrai, mais ce que je trouve plus intéressant encore, c'est le fait que nos musiciens commencent à redécouvrir le patrimoine culturel ukrainien et à l'intégrer dans leur création. Il y a une vraie recherche personnelle pour se reconnecter avec nos racines, dont la musique également. Des styles, des instruments ou des techniques qu'on avait oubliés, auxquels on ne prêtait plus attention et qui reviennent au bout du jour.
C'est une affirmation culturelle, identitaire aussi, ukrainienne, montrer qu'il y a une culture ukrainienne spécifique, malgré finalement ce que peuvent en dire les Russes qui voudraient balayer tout ça en disant qu'il n'y a pas de culture et de nation ukrainienne.
Oui, et à ce propos, nous devons remercier la France qui vient de rétablir la vérité en rebaptisant les danseuses ukrainiennes, un tableau d'Edgar Degas qui représentait des jeunes femmes en habit traditionnel ukrainien, mais qui avaient été nommées les danseuses russes. C'est un exemple de tout ce que les Russes ont essayé de s'approprier de notre culture, pour faire disparaître sa spécificité. Il y a beaucoup d'autres exemples de cette manière dont les Russes, depuis des siècles, ont volé et renommé nos œuvres pour dire ensuite que nous n'existons pas en tant que nation. Et donc, nous sommes heureux, aujourd'hui, de voir que le monde commence à voir ce qui est véritablement ukrainien, à reconnaître notre identité propre.
Quel regard vous avez sur les rockers russes On sait qu'ils existent, qu'ils ont fait partie de l'histoire du pays ces 30 dernières années, disons. Aujourd'hui, voilà, il n'y a rien qui vient de leur côté. Comment vous voyez ça ?
C'est une question très triste. La plupart des rockers russes les plus connus donnent aujourd'hui des concerts de soutien à Vladimir Poutine et à la guerre en Ukraine. C'est très douloureux à voir parce que nous avons grandi avec eux. Nous avons partagé leur rébellion, on parlait la même langue, celle de la liberté et de l'anarchie contre l'État russe. Et 30 ans plus tard, ils ont opéré un virage à 180 degrés. Il y en a quelques-uns, heureusement, qui critiquent publiquement Poutine et l'invasion de l'Ukraine. Ils ont dû quitter la Russie. Mais la plupart sont complices de cette volonté de supprimer la liberté des Ukrainiens. Vous vous rendez compte, nous, les rockers, on s'est battus ensemble contre l'Union soviétique. Et aujourd'hui, ils sont de nouveau prisonniers d'un État totalitaire. Appelons ça du postmodernisme.
Je m'appelle Vitaly Kirichenko. Je représente le groupe de rock ukrainien qui s'appelle Numéro 482.
Je crois qu'on a de la chance de vous trouver ici ce soir pour un concert parce que c'est pas si courant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
C'est vrai qu'en ce moment, je sers dans nos forces armées. Dans le 130e bataillon de défense territoriale basé à Kiev. En ce moment, nous sommes en permission, nous sommes revenus à Kiev, mais ces derniers temps, nous étions sur les lignes de front à l'est, dans la région de Kharkiv. Et encore avant, pendant 2 mois, nous étions dans le Donbass, dans le secteur de Sloviansk.
À quel moment vous avez décidé de vous engager justement auprès de l'armée ?
Moi, j'ai commencé mon service dans l'armée dès le premier jour, le 24 février 2022. Quand l'ennemi envahit ton territoire, tu dois le défendre. C'est ensuite que c'est devenu plus compliqué. J'ai 48 ans. Il a fallu que j'apprenne très vite à survivre aux nuits dans les tranchées, le danger, le froid, la nourriture et l'hygiène qui manque.
Sur ce qui se passe ce soir ici, la soirée pour collecter des dons pour l'armée, pour aider les gens qui en ont besoin à cause de la guerre, ça c'est quelque chose qui a une vraie importance. Quand on est sur le front, c'est quelque chose qui a un vrai rôle à jouer de soutien.
Oui, c'est très important, parce que ça unit la nation. Ça donne la possibilité, par exemple, à des gens qui sont à Kiev de participer à l'effort collectif de la guerre. Et pour nous, qui sommes sur le front, c'est capital. Les collectes de fonds permettent d'acheter des choses que l'armée a parfois du mal à nous fournir, comme des médicaments ou du matériel électronique. Il y a cette histoire du présentateur de télé très connu, Serhii Pritula, qui a créé une fondation pour lever des fonds et qui a récolté plus de 20 millions d'euros. Au départ, il voulait acheter des drones pour les soldats, et au final, il a eu de quoi acheter un satellite. On n'a jamais vu une telle mobilisation populaire ailleurs dans le monde. Et pour nous, musicien, c'est une occasion rare par les temps qui courent de remonter sur scène, de faire ce qu'on aime, jouer de la musique tout en se rendant vraiment utile. Ces concerts, c'est comme une parenthèse dans ma vie de soldat. Quand tu es au front, la vie se réduit à peu de choses. Survivre, veiller, se préparer, partir en mission. Et là, j'ai la possibilité de revivre quelque temps, un peu de la vie que je menais en temps de paix. D'être à nouveau un musicien dans un groupe de rock.
Avec du rock ukrainien dans les oreilles, direction Kharkiv, encore 400 km plus à l'est. La deuxième ville d'Ukraine se trouve à 30 km de la frontière russe. Et les gens ici ont calculé que les missiles, qui continuent d'être tirés sur la ville plusieurs fois par semaine, mettent 37 secondes seulement à leur arriver dessus. Autant dire que les alertes aériennes incessantes ne servent plus à grand-chose. Mais Kharkiv reste une ville d'une passionnante vitalité artistique. La plupart des artistes qui vivent ici ont refusé de partir quand les bombardements ont commencé.
On rentre dans l'immeuble et allumer nos téléphones parce que coupure d'électricité depuis le bombardement de ce matin.
Dans la cave, transformée en atelier d'un immeuble de la rue Kultouri, rue de la Culture, nous rejoignons Tetiana Pilipchuk, la directrice du musée littéraire de Kharkiv, veut absolument nous présenter le sculpteur Oleg Kalachnik, mais elle nous prévient, si elle ne vient pas avec nous, il refusera de nous parler.
Du café, du vodka, du vin.
Ça va, ça va. D'abord, on parle.
Oleg est un sculpteur de grand talent. Et dans son atelier, vous pouvez voir des œuvres qu'il a réalisées avant le 24 février 2022. C'est très ironique d'ailleurs, parce que ces œuvres faisaient partie d'une exposition baptisée « Enfant terrible » qui a démarré ici à Kharkiv le 22 février 2022. Moi, je n'avais pas pu aller au vernissage et je prévoyais d'aller voir l'exposition le 24 février, mais bien sûr, ça n'a pas été possible. Le musée où elle était exposée est aussi en sous-sol et il a été également utilisé comme abri pendant les bombardements par des artistes et leurs familles qui ont vécu là, au milieu des œuvres d'Oleg. Oleg, lui, était resté à Kharkiv, il était devenu volontaire. Avec sa petite voiture rouge, il allait porter du ravitaillement dans les quartiers comme Saltivka, qui était sous les bombes russes.
Parce qu'il faut se rappeler de ce que c'était à l'époque, les premiers jours. Rester à Kharkiv, c'était un choix difficile à faire parce que les bombardements étaient vraiment incessants.
Oui, les Russes étaient aux portes de la ville et nous étions à la portée de leur artillerie. Ils ne cessaient pas de nous bombarder. Et un jour, Oleg m'a pris avec lui pour distribuer de l'aide humanitaire. Et je lui ai dit, tu sais que je n'ai toujours pas vu ton exposition. Alors il m'a dit qu'il avait les clés du musée et que même s'il n'y avait plus d'électricité là-bas, il allait me faire visiter son exposition à la lampe de poche. Et je dois vous dire que le style d'Oleg est assez ironique et provocateur. Il est obsédé par l'image des petits soldats, ces jouets qu'on avait tous à l'époque soviétique. Et de nombreuses de ces sculptures partent de moulages de différentes tailles, de petits soldats. Et donc, c'était très troublant, à la lumière des lampes torches, de découvrir ces silhouettes de soldats alors que nous étions sous les bombes.
Je m'appelle Oleg Kalachnik, sculpteur. Merci de venir me voir. Mais je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de cette interview. Il me semble que c'est trop tôt pour parler de mes œuvres pendant la guerre, parce que tout ça n'est pas terminé. L'année qui vient de passer a été très lourde de tensions, et pourtant j'ai le sentiment que ce n'est là que le début. Ici, sur cette table, vous pouvez voir un soldat de bronze que j'ai réalisé après le 24 février. Là, un avion, quelques œuvres récentes, mais qui prolongent mes travaux d'avant la guerre. J'ai commencé à travailler sur cette image du soldat de plomb bien avant le déclenchement de l'invasion russe. Certains disent que c'était prophétique, mais je n'aime pas cette idée. Ça remonte surtout à mon enfance sous l'Union soviétique, avec une vraie dimension autobiographique. On nous habillait comme des petits militaires, on nous faisait marcher au pas, on nous donnait des petits soldats de plomb pour jouer avec. L'enfance en URSS était déjà marquée par cette imagerie militaire omniprésente, imposée par les adultes. Mais maintenant, j'en ai assez de tout ça. Je veux en finir avec cette période. J'aimerais que ces œuvres soient les dernières. Ça fait des siècles que les Russes essayent de détruire la culture ukrainienne. Je n'arrive même pas à imaginer le danger que courent les artistes ukrainiens qui restent fidèles à leur pays et à leur culture dans les territoires occupés par les Russes.
Vous savez, moi je suis convaincue qu'il faut avoir une analyse décoloniale de cette guerre. Mais les gens ici ont du mal avec cette grille de lecture qui fait de la Russie une puissance coloniale. Pendant toute la période soviétique, on nous a dit que nous étions deux peuples frères à égalité. Et beaucoup de gens ici continuent à y croire, même si actuellement ils détestent leurs frères russes. Moi, je sais que la Russie nous a toujours considérés comme une province inférieure et continue de vouloir s'approprier notre culture et nos richesses pour nous écraser.
Vous nous avez dit que vous aviez envie, que vous sentiez que vous arriviez au bout de cette période de création autour de l'imagerie militaire qui renvoie à l'enfance. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce à quoi va ressembler ou ce à quoi ressemble déjà votre nouvelle époque de création artistique ?
Je veux revenir à mes anciens thèmes de travail, l'amour. Je suis persuadé qu'on peut s'inspirer d'autre chose que la guerre, même en temps de guerre, pour ne pas tomber dans une sorte de prostitution artistique.
Je ne suis pas vraiment de cet avis. Il me semble que la guerre pèse tellement lourd sur nos vies qu'il est impossible d'éviter qu'elle influence ton œuvre, même inconsciemment. Tu sais, Oleg, tu voudrais revenir à la vie du 23 février 2022, mais je crois que nous n'y reviendrons jamais plus.
On est dans le centre de Kharkiv, sur la place de la Constitution, devant le théâtre de marionnettes. Et on a rendez-vous avec un artiste assez emblématique, un street artiste qui vient d'arriver devant nous. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour nos auditeurs français ?
Je m'appelle Gamlet Zinkivsky. Je suis artiste, soldat, volontaire, tout ça en même temps.
Vous nous avez proposé, Gamlet, et merci beaucoup pour ça, de nous faire visiter un peu le centre-ville. On vous suit, alors ?
Dis-moi.
Il demande ça va.
On va essayer de faire avec le bruit des générateurs électriques qui fonctionnent un peu partout quand il y a des coupures d'électricité comme maintenant. Gamlet, c'est quoi, alors, ici ? Pourquoi ? Ici, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on a devant nous, alors ?
Cette fresque s'appelle la circulation de la bonté. Ce sont des silhouettes humaines, en noir, sur fond blanc, qui forment une chaîne et se passent des cartons d'aide humanitaire. Je les ai presque tous dessinés avec des auréoles au-dessus de la tête pour symboliser à quel point je considère les volontaires comme des saints. Mais vous voyez aussi que l'un d'entre eux n'a pas d'auréole. C'est fait exprès pour montrer qu'il y a aussi des gens qui profitent de la guerre pour s'enrichir. Mais la plupart des volontaires que je connais, ce sont des vrais saints.
Je peux circuler comme ça entre tous les immeubles. C'est un vrai labyrinthe de passages et de courses. On ressort sur une autre rue derrière. Nous voilà devant un portail. Alors, Gamlet, qu'est-ce que...
À chaque perte, nous sommes plus forts. C'est le titre. J'ai représenté une de ces structures en bois traditionnel de l'ouest de l'Ukraine, quatre mâts qui supportent un toit mobile au-dessus d'un tas de foin. L'été, le tas s'élève et le toit avec. Et l'hiver, à chaque fois qu'on prend du foin pour nourrir les bêtes, le toit descend un peu. Sur l'image, on voit qu'il est très bas. Mais on sait qu'une nouvelle moisson va venir.
L'idée est en том, что мы
Cette fresque, c'est un message psychologique que j'ai voulu transmettre pour lutter contre la dépression qui nous guette tous. Chaque jour, nous apprenons la mort de soldats ou de civils autour de nous et nous devons être forts pour ne pas céder à la tristesse qui menace de tout emporter.
Et on a rencontré pas mal d'artistes ukrainiens depuis quelques jours et qui nous disent que c'est difficile à la fois c'est important de s'engager par son art dans l'effort de guerre et le soutien aux forces armées, mais qu'il en reste toujours une forme de culpabilité de ne pas être sur le front, que ça ne suffit pas forcément d'être seulement engagé par son art. Comment est-ce que vous gérez ça?
По-перше, я в батальйоні. Я вже навчився стріляти.
Moi, je n'ai pas ce sentiment de culpabilité. Je suis dans un bataillon et j'ai appris à tirer. Seulement, mes chefs militaires ne veulent pas m'envoyer au front parce qu'ils savent que je suis plus utile ici à organiser l'aide militaire, à rassembler et à mobiliser tout le monde autour de mes fresques. Souvent, quand je peins dans la rue, des militaires passent et me remercient pour ce que je fais. Et quand je suis avec mon bataillon, je participe au moral des troupes en racontant des blagues aux soldats. Grâce à tout ça, j'ai compris que je peux être utile à travers mon art.
Là, on est devant un bâtiment administratif complètement muré, avec du contreplaqué sur toutes les fenêtres. La ville est un peu fantomatique, mais en même temps, les fresques et les œuvres de Gamelet apportent aussi de la vie et de l'art sur les murs. Là, c'est... Alors, où est-ce qu'on est là? C'est quoi ce bâtiment, justement?
C'est le siège de l'administration municipale. Quasiment toutes ses vitres ont été soufflées. C'est pour ça qu'il a l'air fantomatique. Là, on est devant ce qui était l'entrée principale, qui est donc murée. Et dessus, j'ai peint une fresque que j'ai appelée « Infernale hospitalité ». C'est une référence au début de la guerre, quand les Russes pensaient qu'on allait accueillir leurs soldats avec des fleurs plein les bras. Mais ils sont venus en ennemis. Alors on les a accueillis avec ça, des cocktails Molotov qu'on appelait aussi pour rire des Smoothie Bandera, du nom d'un héros nationaliste ukrainien qui est particulièrement détesté en Russie. C'est ça, l'hospitalité infernale que j'ai voulu représenter.
Donc l'hospitalité infernale, c'est des bouteilles, des cocktails Molotov et des jerrycans d'essence. Un petit détail qui attire mon attention, Gamelet, vous signez d'une façon particulière, expliquez-nous ça.
À chaque fois, j'écris Gamelet, avec l'année de création, et aussi Rartia, le nom du bataillon auquel j'appartiens. Je le fais parce que je suis très reconnaissant à mon bataillon de me donner la possibilité de rester un street artiste, tout en faisant partie de leurs soldats. C'est possible parce que le chef du bataillon est mon ami, et parce qu'en Ukraine, tout est possible.
Я солдат, и поверьте, не хотел я войны, но она заполняет все прямые эфиры. Я солдат, солдат своей любимой.
La nuit avant que nous quittions Kharkiv, trois missiles russes tomberont sur des quartiers de la ville. Et les canons d'artillerie tonneront à plusieurs reprises pendant notre dernière interview, tout près de la ligne de front, avec la poétesse et soldate Yarina Tchornogouz. Elle s'est engagée dans l'armée il y a 2 ans parce qu'elle n'arrivait pas à se remettre de la perte d'un ami proche mort au combat déjà dans le Donbass. Yarina nous attend dans le village abandonné de Yampil, dans la petite maison qu'elle et ses compagnons d'unité ont choisi comme camp de base entre 2 missions de reconnaissance sur le front.
Je m'appelle Yarina Tchornogouz, j'ai 27 ans.
Je m'appelle Yarina Tchornogouz, j'ai 27 ans. Je suis médecin militaire dans l'équipe de reconnaissance de mon bataillon d'infanterie de marine. Ici, on est tout près de la frontière entre les régions de Donetsk et de Luhansk.
Ça veut dire que là, on est à quelle distance à peu près vraiment de la zone de front?
8 kilomètres. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les soldats de nos unités quand ils partent sur la ligne de front repérer les positions russes. Et s'il y a des blessés, on les évacue au plus vite vers des endroits sûrs où on pourra essayer de les soigner.
Par exemple, ce matin, au moment où on devait vous retrouver, vous nous avez dit que vous aviez dû partir en urgence avec un camarade blessé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les circonstances de ce qui se passe pour nous montrer bien le concret de votre travail?
Oui, ce matin, au moment où une unité à nous allait en relever une autre sur le front, ils se sont fait tirer dessus. Personne n'a été touché, mais en reculant, un soldat a marché sur une mine qui lui a arraché une partie du pied. Il va sans doute falloir l'amputer au niveau du talon. Ce genre d'évacuation médicale, on en fait quasiment une par jour.
Il me semble avoir compris aussi que vous avez aussi des drones. Est-ce que vous travaillez aussi avec des drones vous-même ou est-ce que c'est les autres de l'équipe qui font ce travail-là?
Oui, c'est vrai. Vous voulez voir mon drone? Dans notre unité, les drones servent à localiser les positions ennemies pour préciser nos tirs d'artillerie, mais on les utilise aussi comme armes pour jeter des grenades sur les Russes. On a des drones fournis par notre commandement, mais celui-ci a été acheté grâce à des dons de volontaires qui nous l'ont offert. D'ailleurs, si on regarde autour de nous, presque tout nous a été fourni par des volontaires, à commencer par notre connexion Internet Starlink, notre groupe électrogène, ce radiateur aussi, ces talkie-walkie, cette trousse à pharmacie qui nous sert pour les blessés. En fait, on pourrait avoir ces équipements par notre état-major, mais ça prendrait plus de temps à arriver. Et comme on a tous des proches autour de nous qui veulent nous aider, qui nous demandent de quoi on a besoin, ils collectent de l'argent pour l'acheter et ils viennent ici nous l'apporter. C'est plus simple et plus rapide.
Si on a tenu à venir jusqu'ici pour vous rencontrer, Irina, c'est aussi parce qu'on nous a dit que vous étiez, en plus d'être une soldate très, très courageuse, que vous étiez une femme de lettres, une poétesse. Vous ne l'avez pas dit quand je vous ai demandé de vous présenter. Alors c'est quelque chose qui n'existe plus ici ou quand on est au front, à la guerre, on peut être une poétesse ou pas?
Oui, de temps en temps, même ici, j'écris des textes, quand je trouve un moment entre deux missions. La poésie sur le front, c'est avant tout un moyen de repousser la douleur permanente que l'on ressent ici, de la faire partager à quelqu'un d'autre, au lecteur. C'est une forme de méditation sur tout ce que la guerre a changé dans ma vie et une manière d'essayer de donner un sens à tout ça.
Ça veut dire que vous partagez ça avec vos camarades ici de combat? C'est quelque chose qui peut leur apporter aussi du réconfort?
Non. Chaque soldat ici vit avec sa propre expérience de la guerre. J'ai la mienne. Je n'ai pas envie de troubler leur monde en leur imposant ma manière très personnelle de gérer tout ça. Mes poèmes sont plutôt destinés à ceux qui sont loin du front, pour qu'ils comprennent ce que je ressens ici. Ce que l'on abandonne sous l'occupation. Les objets abandonnés sous l'occupation, perdus à la guerre, ont tendance à réapparaître. C'est l'amour qui les fait revenir, en rachetant les derniers exemplaires, là où l'on n'en produit plus de nouveaux. Il est donc absurde de regretter ces objets précieux laissés dans les zones occupées. Mais que faire du toucher des défunts sur ton corps? Comment vivre avec les saluts, les appels que les morts, laissés sur le champ de bataille, t'ont adressés? Qu'ont-ils vu les yeux de ceux-là tombés au combat sur les terres occupées? La guerre a aboli le temps des réponses aux questions difficiles tout en laissant l'éternité pour ces questions auxquelles ni le plus sage, ni le plus audacieux ne saura répondre. Qui érigera les courganes au-dessus des derniers regards tournés vers le ciel? La guerre offre à titre gracieux la vérité, chèrement payée et longuement pleurée. Les corps ne veulent pas lâcher les corps. Les vivants disparaissent avec les morts. Ceux qui sont tombés au champ d'honneur restent longtemps en vie. Avant l'hiver 2022, nous ne comprenions pas ces vers de Shevchenko. Ses yeux crevés par les aigles dans un champ lointain, son corps blanc mangé par les loups, tel fut son destin. Avant la fin de ce mois de février qui durera des années, nous apprendrons ce que voient les yeux de ceux qui sont restés sur le champ de bataille. Avant la fin de ce mois de février, qui durera des années, jamais nous ne répondrons à la question de savoir comment vivre avec le toucher des défunts sur nos corps.
Ce poème a été traduit en français par Irina Sobchenko, artiste ukrainien de la scène au front. Un reportage de Camille Magnard et Laurent Macchietti avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'invitée de ce grand reportage est l'écrivaine et scénariste ukrainienne Irina Karpa. Alors, vous habitez en France, mais vous êtes retournée encore très récemment en Ukraine, où l'activité culturelle n'a pas cessé. Vous pouvez vous-même en témoigner.
Oui, tout à fait. Chaque fois quand je reviens, je participe à un événement culturel. Soit c'est une soirée artistique, polydisciplinaire, où on lève les fonds, soit c'est la lecture ou la présentation de mon bouquin, où je lève les fonds, soit c'est comme notamment le festival 5e Kharkiv. Donc ça, c'est le festival où il y avait 5 groupes de rock et 1500 personnes rassemblées dans le théâtre. Et une détail curieuse, que, donc oui, non, c'était pas sous la terre, c'était le théâtre, le plus grand théâtre de Kharkiv, Khatob. Et il y avait une seule demande pour l'audience, de ne pas faire les streams en live. Donc là, après, vous pouvez faire les stories, mais il ne faut pas faire en sorte que le théâtre avec 1500 personnes devienne en cible. Mais c'est incroyable. On a parlé avec Camille. D'ailleurs, merci beaucoup pour ce reportage incroyable. Donc là, c'est vrai que j'ai entendu plusieurs personnes que je connais. Et Kharkiv, ça frappe énormément en fait, parce que quand tu parles de Kharkiv, quand tu vois les images à la télé, les maisons détruites, tout, et tu penses qu'il y aura la dépression, qu'il y aura vraiment cette sensation très sombre. Mais en réalité, j'arrive à Kharkiv, la ville est nette, tout est propre, donc très européen. Du coup, il faut encore une fois dire comment l'architecture est très européenne. Donc là, c'est même parfois c'est plus beau que Kiev. Donc là, excusez-moi que je dis ça, mais j'étais très touchée par ce côté européen. Et même là, au milieu de centre-ville où il y avait les frappes russes sur les bâtiments anciens, tout est déjà nickel. Donc là, la restauration est tellement rapide que si tu connaissais pas, s'il y avait pas de ces plaques de bois dans les fenêtres, on n'aurait jamais pensé qu'il y a la guerre là-bas.
Et alors, cette vitalité de la culture ukrainienne, est-ce qu'elle est due uniquement à des engagements individuels ou est-ce que l'État ukrainien, qui a pourtant fort à faire évidemment, apporte lui aussi d'une manière ou d'une autre un soutien à la culture ?
Je crois que concernant l'État et les budgets pour les cultures, ce qui est le soutien, maintenant c'est coupé, tout est coupé. Donc là c'est normal, c'est compréhensible, il y a la guerre, donc tous les moyens sont engagés là-bas. C'est plutôt la société civile qui engage, c'est plutôt la volonté de chaque artiste individuel, c'est plutôt la volonté de la public qui choisit de venir, de payer, de soutenir, de collecter les dons. Il y a la scène culturelle, si vous venez à Kiev maintenant, avant les bombardements très intenses, les gens ne payaient pas attention aux alarmes aériennes. Elles continuaient à prendre les petits cafés, la vie continuait, les gens allaient comme à Barman Diktat pour les concerts souterrains dans le métro. Donc le métro est devenu vraiment le lieu culturel aujourd'hui. Mais c'est partout, il y a beaucoup d'artistes qui s'engagent à faire les actions dehors de l'Ukraine, parce qu'il y a beaucoup aussi d'Ukrainiens qui sont partis, et donc là, il y a les musiciens, etc. etc. Mais je crois que c'est notre forme de résilience ou de résistance. Il y a beaucoup d'humour. Donc là, même s'il y a c'est très drôle à propos des Ukrainiens. Le matin, il y a un événement qui est assez tragique. Le soir, on a plein de blagues sur ce propos.
Voilà. Camille Manière.
Sur la culture ukrainienne, on a l'impression qu'elle a trouvé sa place sur la carte mentale du monde et qu'elle est enfin reconnue et qu'il a fallu déjà 9 ans de guerre et d'agression russe et puis 7 années de guerre beaucoup plus totale pour que enfin le monde, la France en particulier, commence à se dire oui, il y a une spécificité ukrainienne, une culture ukrainienne. C'est quelque chose que vous ressentez ? Il y a des choses qui se passent de ce côté-là dans les institutions culturelles, dans les échanges qui ont lieu ?
Je crois que c'est le début. En fait, le début, on aurait bien aimé que les actions de plus de l'intensité plus grande. Mais comme m'a dit tout à l'heure Irina Slavinska, qu'on connaît tous les deux, c'est le vrai problème était que pendant 3 siècles, la Russie, comme n'importe quel empire ou métropole, faisait ce grand rideau qu'on appelle la culture russe. Et devant ce rideau, on ne voit pas les cultures d'autres peuples qui appartenaient à l'empire à cette époque, notamment dans la culture ukrainienne. On peut bien sûr dire que oui, Tchaïkovski, il n'est pas coupable. D'ailleurs, oui, si on regarde la famille de Tchaïkovski, ça vient de l'Ukraine aussi. Donc là, il est en fait descendant d'une famille de Cosaques. Mais là, pour le moment, pourquoi ne pas découvrir les compositeurs ukrainiens comme Lysenko, comme Skorek, comme Latoshinsky. En plus, ils étaient déjà joués en Europe. Donc là, je crois que c'est pas très difficile. Donc il y a plein de noms à découvrir. Il y a aussi plein de noms qui sont connus déjà aux Français, comme Sonia Delaunay. Et peu de Français savent qu'elle était née en Ukraine. Et Malevich aussi. Malheureusement, il existe ces termes génériques comme avant-garde russe. Tandis que les participants sont de l'Ukraine, de ce moment sont de l'Ukraine, de Biélorussie, etc., etc. C'est juste que c'était beaucoup plus facile juste dire que tout ça, ça vient de Russie. Mais là, en ce moment, on aimerait bien quand même donner la voix à la culture ukrainienne parce qu'il y a plein de choses à découvrir, classiques et contemporaines aussi.
J'ai choisi un mot compliqué. La désinvibiliser cette culture ukrainienne, la sortir de la domination russe. Y compris à travers la langue, il y a cette défense de la langue ukrainienne qui est particulièrement forte, et même des écrivains russophones. J'ai vu, c'est le cas notamment de Volodymyr Rafeyenko. Ah oui. Pour lui, il dit, c'est devenu pour moi viscéralement impossible d'écrire en russe.
Oui, c'est vrai que c'est l'effet psychologique. C'est dommage, on voit pas, mais là sur j'ai un bijou avec Itrema. Donc là, en ukrainien, ça s'appelle Yi, et ça c'était aussi l'action qui disait qui soutenait la langue ukrainienne, parce que ça, Yi, ça existe en ukrainien, ça n'existe pas en langue russe. Donc maintenant, on est vraiment pour souligner toutes ces belles petites différences. Et la question de langue, oui, Rafeyenko, il est génial. C'est vraiment, je n'oublierai jamais, c'est un grand nounours qui jouait du piano. C'était la première fois qu'il est venu au Salon du Livre de Paris. Là, j'étais à l'ambassade encore. Et c'était, il présentait le livre qui était traduit de russe en ukrainien. Mais maintenant, c'est vrai qu'il a commencé, qu'il se remit à écrire en ukrainien. Il dit que jamais il pourrait revenir à Donetsk parce que c'est une autre ville maintenant que celle qui a quitté. Et maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant aussi, ok, les artistes, les intellos, c'est compréhensible, mais il y a juste les gens très simples, génération de mes parents, qui refusent aujourd'hui de parler russe parce que ça, c'est la question vraiment d'identité finalement. Donc les gens se réveillent et de plus en plus, les gens aussi qui parlent ukrainien, c'était avant inimaginable. Là, je viens au show de Ivan Frolov, ça c'est le créateur ukrainien qui habille Beyoncé, etc., etc. Je vois tous les modèles, toutes les modèles, ils parlent ukrainien. Je sais que c'est difficile à expliquer aux Français, mais pour nous, c'était comme waouh, c'était l'effet de waouh. Quand j'avais 20 ans, je me souviens très bien, donc, I had a dream, j'avais un rêve que dans 20 ans, en Ukraine, tout le monde va parler ukrainien, comme les gens parlent polonais à Pologne et tchèque. Et c'était tellement impossible à imaginer. Et maintenant, en fait, mon rêve se réalise.
Et alors, ce rejet du russe et de la culture russe, est-ce que vous diriez que c'est une réaction épidermique par rapport à l'invasion, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui pourrait durer largement au-delà de la guerre ?
Pour les Ukrainiens, c'est bien compréhensible pourquoi c'est comme ça. Donc là, je n'utiliserai pas le terme boycott. Nous, on utilise plutôt mise en pause, comme une des intervenantes a dit. Peut-être dans 200 ans, j'en sais rien. Donc, mais là, pour elle, c'est inimaginable de jouer en langue russe ou jouer en auteur russe. Après, oui, c'est vrai que les bonnes Russes à l'extérieur de l'Ukraine, ils doivent se taire pour le moment pour donner la possibilité aux Ukrainiens de parler. Et donc, y compris la faute aussi, c'est pas la faute de la culture, mais si vous voulez, c'était toujours aussi le rideau pour toutes les atrocités qui étaient faites par la Russie. Donc on peut pas vraiment opposer le grand ballet et la danse au bombardement, au viol et aux tortures. Donc il faut vraiment éviter ces manipulations aujourd'hui. Et moi, personnellement, c'est la culture ukrainienne qui m'intéresse. Et après, il y a beaucoup, beaucoup d'alternatives dans la culture mondiale. Moi, par exemple, j'ai grandi avec la littérature française plutôt que la russe. Les Russes étaient beaucoup trop sombres, beaucoup trop sans aucun espoir, etc. Et pourquoi ne pas découvrir la littérature scandinave, polonaise, tchèque ? Donc il y a tout ce que les Français, ils adorent cet effet de l'âme slave, donc la Gumilov, etc. Mais non, en fait, si vous creusez un tout petit peu dans la littérature ukrainienne, comme Kotchubinsky, par exemple, c'est tellement magnifique, c'est très profond, c'est mystique parfois. Donc, il y a plein de prénoms à découvrir. Même Shevchenko traduit en français. Qu'est-ce que ça sent contemporain? C'est incroyable. Et pourtant, pour nous, c'était, oui, les trucs à New York qu'on apprend à l'école, mais ce réveil, ça donne vraiment beaucoup de nouveaux points de vue sur la vieille classique.
Camille. Dans le reportage, on entend des artistes qui sont restés en Ukraine. Il y a aussi des artistes qui sont partis en exil, certains sont arrivés en France. Est-ce que vous êtes en contact avec des artistes qui, depuis un an, ont trouvé refuge justement en France? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent de ce côté-là aussi?
Oui, hier j'ai croisé Sacha Morozova, qui est pianiste, compositeur. Elle a beaucoup de concerts en France, partout. Oui, il y a des artistes, beaucoup, je crois, reviennent là où c'est plus calme, notamment à Kiev, les gens peuvent revenir. Et oui, ça se passe, ils organisent des festivals. Moi, malheureusement, j'ai tellement peu de temps avec tout le bénévolat d'information que je fais que j'arrive même pas à m'organiser. Oui,
donc vous êtes en France depuis 2015. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça avec les liens très étroits que vous gardez avec l'Ukraine et le fait que vous êtes, vous, à distance? Comment est-ce que vous avez vécu le déclenchement de cette offensive, de cette invasion russe et toute l'année qui vient de passer?
C'était horrible. Là, je suis en train d'écrire quelque chose, j'arrive même pas sur ce, parce que c'était officiellement le pire matin de ma vie. Quand ma copine m'a appelé, elle a dit « Réveille-toi, il y a Kiev et Kharkiv sous les bombes ». Mais en fait, la seule solution pour ne pas tomber dans le péril, pour ne pas être déprimé, c'est agir. Donc là, chacun réagit à sa manière. Les artistes, oui, en faisant partie de projets artistiques. Moi, par exemple, je voyage vraiment beaucoup. Je vois mes lecteurs partout dans l'Europe, en Ukraine. J'étais 5 fois depuis le début de la guerre en Ukraine, parce que je fais le tournée avec un nouveau livre qui est aussi assez actuel parce que ça parle de la silence des victimes de violences, qui est assez souvent le cas, malheureusement, dans les villes qui étaient sous l'occupation russe, où les femmes choisissent de ne pas parler de tous les des crimes de guerre, des viols qu'elles ont subis. Et ça aussi, en fait, ça c'est le message vers la société ukrainienne pour ne pas être indifférent, pour ne pas accuser les victimes qui étaient souvent le cas. Après, une chose intéressante que j'ai fait, c'était le cours de l'écriture thérapeutique. Donc, c'était pour tous les Ukrainiens, les Ukrainiennes, dehors de l'Ukraine, assez souvent ou en Ukraine, qui n'arrivaient pas à travailler leurs émotions complexes, l'inquiétude, comme la peur. Et donc là, j'ai fait un cours pour qu'elles se libèrent à travers l'écriture, avec une psychologue, Larissa Voloshina. Et il y avait plus de 500 participants. Et finalement, on a reçu des belles textes. Et là, je fais un deuxième cours. Donc là, on va faire un livre qui va sortir avec ces témoignages, avec ces petits récits de gens différents, des expériences différentes, des femmes notamment qui ont vécu la guerre. Certains comme militaires, les autres comme réfugiés et comme des bénévoles.
Merci Irina Karpa, et on souligne que la culture ukrainienne et son patrimoine sont pris pour cible par l'armée russe. Cette semaine, des experts de l'ONU ont dénoncé la destruction délibérée de la culture ukrainienne par la Russie. Ils parlent d'une tentative d'éradiquer le droit des Ukrainiens à leur propre identité. Artistes ukrainiens de la scène au front, le grand reportage de cette semaine était signé Camille Magnard et Laurent Macchietti. Fixeur Arkady Davidenko, Annie Bro a assuré la réalisation de ce magazine et Eric Rouche était à la technique. Merci à la documentation de Radio France et à Caroline Beneteau au web. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.